Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur-compositrice. On va parler musique d'abord, dans cette première partie d'émission. On va recevoir l'auteur-compositrice-interprète Sonia Johnson, qui va nous présenter son album d'hiver. C'est fait pour nous faire du bien, pour qu'on puisse passer cet hiver avec beaucoup de tendresse. Ça s'appelle Air givré. Ensuite, dans la deuxième partie de cette émission, on va parler cinéma et cinéma avec notre chroniqueuse du mois, Louise Véronique Sicotte. Alors, de quoi va-t-elle nous parler ? Restez avec nous pour en savoir plus. Pour l'instant, on part avec une chanson de Sonia Johnson qui nous chante « C'est l'hiver de Vivaldi » de son album « Air givré ».
L'hirondelle file vers le désert. Le vieil ours a choisi sa tanière. Sous les gouttières décorées de glaçons, c'est l'hiver qui s'installe au balcon. Les étoiles brillent enfin. Les conifères sentent si bon sur tes paupières, quelques flocons. C'est bien l'hiver, l'hymne à la vie de Vivaldi. Les enfants courent dans la clairière. Les bancs de neige leur font des barrières. Dois-je les demi-taines éphémères à la lumière du foyer, ton grand-père amusé, fou rire et jeu de cartes, comme ta grand-mère qui chante au comme le bonheur qui danse dans nos salons. C'est l'hiver selon Vivaldi.
Et voilà, on vient d'entendre Sonia Johnson et on est avec elle. Bonjour Sonia.
Bonjour Arlène.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Écoute, on va parler donc de ton album Air givré. Imagine-toi que j'ai écouté l'album avant de lire quoi que ce soit des textes qui nous étaient envoyés sur toi. Et j'ai choisi trois chansons. Et il se trouve que ton album qui a des reprises de gros succès, les deux qui sont des pièces originales, je les ai choisies pour le mettre sans savoir que c'était des pièces originales.
Bah, tant mieux.
Alors,
ça
tu vois.
Ça fait plaisir.
Joie, bonheur. Quand j'ai entendu celui-ci, alors c'est vrai que la chanson était courte, mais j'étais vraiment dans un monde de comédie musicale, quoi.
Ben, la mélodie est tellement connue de cette pièce-là pour nous, parce que vu que c'est vraiment, ça fait partie de l'hiver de Vivaldi,
oui.
des quatre saisons, c'est une mélodie qu'on connaît, mais on sait qu'il y a quelque chose qui nous remémore, mais ça n'a jamais été entendu avec des paroles, en tout cas,
oui.
Pas à ma connaissance.
Revampé, en tout cas.
Oui, merci.
Et c'était bien, et ça m'a fait et j'ai trouvé que c'était une belle idée, un beau moment de repartir là-dessus, justement, de partir en comédie musicale, et puis ça fait du bien à tout le monde. Enfin, ça me fait du bien à moi, c'est le principal. Voilà.
Ben oui, c'est ton émission, c'est toi la reine.
J'aime que tu le dises. Ça me fait... Alors, raconte un peu cet album de chansons d'hiver, puisque ce sont des chansons d'hiver. Comment c'est venu ? C'est un projet au départ, il me semble, qui était, d'après ce que j'ai lu, qui était juste un projet piano-voix.
Oui,
c'est
un projet piano-voix que j'avais envie de faire. Au début, j'avais pensé faire un album de Noël, mais je trouvais que ça me limitait beaucoup parce que Noël, c'est un moment très bref dans l'année.
Oui,
j'ai
c'est
dit,
vrai.
Qu'est-ce que moi j'aime de Noël? C'est surtout l'aspect famille, même si depuis 2 ans, c'est assez pénible pour nous, on ne peut pas le vivre de la même façon. Mais je me suis dit de souligner cette saison-là qui pour moi, est ma représentation un peu de ce moment-là de l'année où habituellement, hors de la pandémie, chez moi, on se retrouve en famille, on fait des jeux dehors avec les petits, avec mes parents et les petits-enfants, mes sœurs, tout ça. Il y a quelque chose de familial pour moi dans la saison de l'hiver. Quand j'étais plus petite, mes parents se sont occupés de clubs de ski de fond. Donc, on a toujours été habitués de s'habiller puis de sortir, de fêter cette saison-là, que parfois, on sait que certains n'aiment pas l'hiver.
Oui.
Mais et c'est là que je me suis mis à rechercher des pièces, quelles seraient les pièces que je pourrais interpréter. J'ai découvert comment les compositeurs et les auteurs ont été influencés par la saison, mais de toutes sortes de façons. Des fois, c'est très lumineux, mais des fois, c'est plus triste aussi. Donc, je voulais démontrer tous les côtés de cette saison-là. Et c'est un peu un voyage dans la saison. Au départ, on parle du mois de novembre, mais plus on
avance.
Ça va jusqu'au mois de mars. Là.
On rentre dans l'hiver, mais en fait, des chansons qui parlent de neige ou qui parlent de l'hiver, il y en a beaucoup. Donc, c'est quand même assez compliqué de faire un choix. Est-ce que tu as choisi ces chansons-là parce que toi, tu avais un lien avec des souvenirs sur ces chansons ou comment ça s'est fait?
Oui, il y en a que c'est des coups de cœur, il y en a avec qui j'avais un. Comme par exemple, moi, j'ai découvert Monique Lérac au début de ma vingtaine. J'adorais cette chanteuse-là. Puis le poème de Nelly Gant, pour moi, c'est la version de Monique Lérac qui était dans la composition de Claude Léveillé. Donc, c'est l'histoire d'hiver, c'était un peu le point de départ. Après, j'ai fait aussi une petite recherche pour savoir ce que les gens aimaient comme chanson hivernale. Et là, ça m'a fait découvrir une pièce de Beau Dommage que je connaissais pas du tout. Donc, c'est un mélange de mes coups de cœur et des coups de cœur du public aussi, parce que j'ai posé des petites questions pendant l'été et les gens trouvaient un petit peu bizarre en plein mois de juillet de demander « Mais quelle est votre chanson hivernale préférée? » Voilà.
Remarque, c'est au moins une solution pour les intéresser, puis pour leur faire peut-être reprendre contact avec une chanson qu'ils pouvaient avoir oubliée. Alors, moi, dans celle, j'ai tout écouté, hein, les 8 pièces. Il fallait choisir. Donc, on entendra tout à l'heure Des diamants sur la ville. Et la toute dernière que j'ai beaucoup aimée aussi, et puis c'est Snowbird.
Ah, oui. Qui est une chanson... qui était interprétée par Anne Murray.
Oui.
Quand Anne Murray a commencé sa carrière, elle chantait pas c'était pas des œuvres qui avaient été écrites pour elle. Elle faisait beaucoup des
reprises.
Et Snowbird fait partie d'un lot de chansons qui lui ont été offertes par un compositeur qui s'appelle Gene McLellan. Il lui a donné une cassette avec des pièces et elle a créé cette œuvre-là. Donc, Snowbird, c'est elle qui a été la première à chanter cette version-là en 69. C'était un grand succès à l'époque et ça a été repris par plein de monde. Perry Como, Elvis Presley, même René Martel, qui vient de nous dire adieu, avait fait une version de Snowbird que... je crois, sur un de ses albums dans la version originale en anglais. Donc, c'est une chanson country dans son esprit, dans comment elle a été créée. Puis nous, on l'a un petit peu transformée. Tu vas pouvoir faire découvrir au public tantôt à ton histoire.
Voilà. Hein. C'est celle que j'ai choisie pour finir l'entrevue, mais là, on n'est pas encore à la fin. Donc, avant qu'on parte en musique, je voudrais que tu me parles de cette chanson « Des diamants sur la ville ».
Les diamants sur la ville, c'est en 2012, j'ai remporté un prix Juno et pas longtemps après, il y a une auteure qui s'appelle Véronique Bellemare-Brière, l'auteur du texte des diamants sur la ville, qui m'a envoyé sa proposition. Elle a dit, écoute, j'apprécie beaucoup le fait que tu fasses du jazz en français. Humblement, je t'envoie ce texte et j'espère que tu pourras faire quelque chose avec. Et je suis tombée en amour avec le texte parce que sa description de l'hiver, il y a une magie dans sa façon de décrire comment la neige, justement, de comparer ça à des diamants, parce que c'est vraiment cet effet-là que ça donne quand on quand il y a une petite neige fine qui tombe, oui. Puis on marche le soir, quand ça passe dans les réverbères, dans la lumière de la nuit, ça a vraiment un aspect magique. Donc, sa description m'a beaucoup touchée. Et j'avais enregistré une première version de ce texte-là, dont j'ai fait la musique avec Luc Beaugrand, qui est le pianiste qui m'accompagne oui. sur cet album-là. Mais je l'ai enregistré en 2014 avec une autre pianiste qui s'appelle Marianne Trudel, dans oui. un tout autre arrangement.
Excellente.
Et puis, merci. Et donc là, c'était intéressant de refaire la version de la plus près de ce qu'on avait créé, Luc et moi, avant le premier enregistrement. On a refait un nouvel arrangement.
Alors, écoute, on va l'écouter. Et en parlant de diamants, moi, je peux te dire que à un moment donné, il y a quelques années en arrière, quand je travaillais autre part, dans une autre radio, et que je me faisais une bonne marche à pied, le long des aux branches des arbres, même avec le soleil, les journées très froides et très ensoleillées, ben ça brillait comme des diamants, oui. c'était sublime aussi.
Oui.
Voilà, il n'y a pas que la nuit, même le jour, on peut en oui. voir des diamants sur la ville.
Ouais.
Alors on va l'écouter, puis on revient avec toi tout de suite après ça.
Super, merci.
Il tombe des diamants sur la ville, les amants ont le cœur en frille, des poches pleines de cristaux de lune, les mendiants trinquent à leur fortune. Un taxi roule au ralenti sur le grand boulevard des hasards, sur les trottoirs noirs de minuit. Personne n'a peur d'être en retard, en retard. Il tombe des diamants sur la ville, la glace fige les néons fragiles. Dans les ruelles, des traces d'anges, des bonhommes qui s'endimanchent. Les chats gémissent comme à la guerre, leurs cris fendent le silence polaire. Nos pas glissent comme sur la laine, la longue traîne d'une reine. Il tombe des diamants sur la ville. Diamants sur la ville, les bornes fontaines ont le nez blanc, sous le vent les paillettes scintillent dans l'immense boule de verre du temps. C'est décembre dans ses dentelles, le couvent de la rue Carmel a l'air d'un grand château de givre où tous les rêves sont prêts à vivre. On a raté le dernier métro. Est-il trop tard ou trop tôt? Que dirais-tu d'un chocolat au petit café rue Montana? Il tombe des diamants sur la ville et les plus belles étoiles ce soir ne sont pas dans le ciel qui brille, mais juste au fond de ton regard, ton regard.
Et nous voici de retour avec Sonia Johnson, Les diamants sur la ville. C'est beau!
Mais merci! Il y a quelque chose de très minimaliste dans ce petit EP que tu as choisi de partager avec les gens. Mais c'est ça, il y a quelque chose de fragile. On a voulu comme un peu comme la neige. Hein. La neige, c'est fragile. Hein. Aussitôt qu'on la touche, elle va disparaître. J'aime bien l'arrangement qu'on a fait de cette version parce que c'est vraiment comme des petites cascades de neige qui tombent.
On a l'impression de les entendre, les diamants.
Mm-hmm.
C'est très... voilà. Alors, j'ai vu aussi que dans cet album, j'ai un petit peu hésité aussi pour ma chanson de fin, parce que tu avais fait également une reprise de la chanson française « Jardin d'hiver ».
Mm-hmm.
Et dans « Jardin d'hiver », au début, c'est très beau ce que tu fais, mais au début, je reconnaissais pas ta voix. Ta voix était comme plus grave, plus...
Oui, mais la tonalité qu'on a choisi de faire, c'est ça, c'est un peu plus grave. Mais c'est les textures de ma voix.
C'était super joli. Tu arrives à faire des changements qui sont assez impressionnants.
Ben merci. C'est toutes les possibilités. Hein. Donc, mais c'est vrai que la chanson Jardin d'hiver est plus. Je pense que dans son propos. Vu qu'elle est un peu plus... C'est l'hiver un peu plus sensuel. C'est l'hiver un peu plus chaud. Hein, que c'est pas le même hiver que l'hiver québécois du mois de novembre. Quoique cette année, on était quand même chanceux. Notre mois de novembre n'était pas si froid. Mais novembre, de l'autre côté de l'océan et de ce côté-ci...
Oui, c'est pas pareil. On a une grosse différence de température.
Oui. C'est ça, je pense que c'était pour le caractère de la pièce, mais aussi, quand on les enregistre, pas nécessairement en sachant dans quel ordre on va les placer. Et c'est vrai que ça fait toute une différence avec la première pièce qui est beaucoup plus dans un registre aigu de ma voix.
Oui.
Et là, on arrive avec le Jardin d'hiver et ça, oh, c'est comme si, c'est presque comme une autre.
Et là, je me suis dit, waouh!
Oui,
là...
c'est vrai. Mais c'est ça, j'ai plusieurs personnalités vocales et puis.
Ben c'est pour ça que tu as du talent aujourd'hui, puis que tu es choisi pour plein de choses complètement différentes, dont même, alors, je te voyais essentiellement, enfin, musicienne, je veux dire, auteur, compositrice, interprète, évidemment, mais j'ai même lu que tu faisais aussi, tu prêtais ta voix à des conférences sur le jazz.
Oui, j'ai fait plusieurs conférences avec Stanley Péan, on un peu sur ça. Stanley donnait le portrait global de l'histoire et nous, les musiciens, on illustrait ses propos. D'accord. En faisant des pièces des différentes époques, des différents styles aussi. J'ai fait ça pendant quelques années. On a fait des tournées de concerts. Oui, c'est ça aussi quand... Je travaille avec beaucoup de compositeurs, puis je suis un peu la chanteuse téméraire, comme on dit, parce que les compositeurs me font faire des choses particulières, comme par exemple, il y a un compositeur qui faisait un jazz plus rock progressif, il s'appelle Vincent Roel, et il m'a invité pour que je fasse des voix d'opéra sur son projet.
Ah oui, mais parce que tu as la voix qui va pour ça, t'as la facilité
parce
de...
Parce que je me donne la liberté de faire autre chose avec ma voix que juste les choses auxquelles je suis habituée.
Donc, bravo.
C'est toujours intéressant quand quelqu'un nous invite. C'est beaucoup plus facile dans le sens où on n'a pas à gérer toute la production d'un album et on est juste là pour exécuter ce qu'on fait le mieux. Et ça fait du bien parce qu'on sait que les artistes, aujourd'hui, on a des tâches administratives qui sont très grandes en plus d'être artiste, en plus d'être créateur. Et donc, quand j'ai une invitation, ça me donne une petite pause de tout ce qui est gestion autour du projet. J'aime bien aussi.
je comprends ça. Avant qu'on arrive à la fin de cette entrevue, j'aimerais qu'on parle de tes projets et qu'on parle de portraits de famille.
Ah, ça pose... les gens sont curieux de ce projet.
J'en fais partie, je te rassure, je suis curieuse aussi.
Oui. J'ai commencé ce projet-là, c'était... Moi, quand j'étais plus petite, j'ai découvert que mon papa était adopté. Et j'avais 8 ans quand je l'ai su, mais pas parce qu'on a voulu me le cacher, mais parce que pour mon père, lui, sa mère adoptive, c'était sa mère. Il n'y avait pas de questionnement de ce côté-là. Mais moi, ça m'a fâchée quand j'ai appris ça. Donc, j'ai eu une espèce de réaction étrange, mais qui somme toute n'est pas si étrange. Il y avait comme une incompréhension de qu'est-ce que c'est que l'adoption, tout ça. Et ensuite de ça, il y a quelques années, on a vu que les possibilités de connaître ces gens-là qui ont soit donné en adoption ou soit qui ont adopté, il y a eu des lois qui sont passées où là, les gens pouvaient plus se retrouver. Ça a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt chez les Québécois, entre autres, de retrouver leur famille. Alors, moi, je me suis dit, ben c'est quoi la famille? Pour chaque individu, c'est très différent. Puis dans mes discussions avec les gens autour de moi, tout ça, on avait toutes sortes de questionnements. Ben j'ai dit, ben je vais en faire des chansons. Alors, j'ai mis une petite annonce sur Facebook et ce sont des gens qui ont répondu à mon annonce qui sont des amis sur les réseaux sociaux, mais c'est pas nécessairement des gens que je connais de très près. Mais j'ai 12 personnes qui ont répondu au même questionnaire et qui est un questionnaire sur quelle est votre identité, comment vous identifiez-vous en tant qu'humain.
Oui.
Donc, il y avait ça dans les questions. Il y avait qui est votre famille pour vous? Donc, certains, c'est leur famille biologique, certains, c'est leur famille adoptive, certains, c'est leurs amis qui sont leur famille. Et je pensais que ce serait ardu d'écrire ces histoires-là parce que c'est pas mon histoire. Alors, c'est très délicat. Il faut qu'on parle de l'histoire de quelqu'un. Donc, cette personne-là nous a dévoilé des choses, mais peut-être qu'on peut pas dire toutes les choses qui nous ont été dévoilées. Donc, il faut être...
Il faut jouer avec ça, oui.
Vous jouez avec ça. Est-ce que la chanson, je la transforme et je parle au jeu ou je décris qu'est-ce que je vois? Et là, il y a plein de possibilités comme ça. Il y a des chansons qui sont nées en anglais. Il y en a qui sont nées en français.
Ah, d'accord.
Et là, je suis en train de finaliser l'écriture des pièces. Et normalement, on entre en studio au printemps pour la sortie, probablement à l'automne prochain.
Non, c'est formidable.
Oui, c'est ça, mais c'est vraiment fascinant. C'est tout un autre processus que d'être... Parce qu'on peut être un observateur et composer une chanson, mais il y a beaucoup de fiction parfois qui va entrer dans la composition. Mais cette fois-ci, on est vraiment... le matériau, c'est vraiment une histoire réelle. C'est une émotion réelle, c'est l'émotion d'une autre personne. C'est vraiment un beau processus... d'écriture. J'ai gardé toutes les entrevues que j'ai faites avec chaque individu, entrevues que j'aurais aimé faire en présence de l'autre personne, mais vu la pandémie, ça a été fait par Zoom. Et j'ai gardé l'audio.
Mais écoute,
et je vais peut-être faire des petits podcasts pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y avait en dessous de l'histoire.
Ouais. Eh ben, en tout cas, c'était une super belle idée. On est arrivé à la fin de cette entrevue, Sonia, ça a toujours été un plaisir de te recevoir. Et puis, j'espère que la prochaine fois, ce sera en studio, comme on a déjà eu le plaisir de le faire ensemble. En tout cas, merci de nous avoir répondu. Et puis, on te quitte donc avec la chanson Snowbird.
Merci de l'invitation, Arlène.
À bientôt.
Salutations à toute votre équipe. Bye-bye.
Bye.
Beneath the snowy mantle, cold and clean, the unborn grass lies waiting for its coat to turn to green. The snowbird sings the song he always sings and speaks to me of flowers that will bloom again in spring. Young then too, anything that it would tell me, that's the thing that I would do. But now I feel such emptiness within, for the thing that I want most in life is the thing that I can't win. Spread your tiny wings and fly away. snow back with you where it came from on that day. The one I love forever is untrue. And if I could, you know that I would fly away with you. But dip, cup, a dip, cup, a little bad dip, start up, no bad dip, do 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 do. The breeze along the river seems to say that he'll only break my heart again should I decide to stay. So little snowbird, take him with you when you go to that land of gentle breezes where the peaceful waters flow.
Et voilà, on vient d'entendre Sonia Johnson qui nous chantait Snowbird. Donc restez avec nous, on parle cinéma avec Louise Véronique Sicotte dans un instant. Qu'a-t-elle à nous apprendre? Surprise. On se reparle dans un moment. Avec, à tout de suite.
Les Faramineux avec Arlette Farah.
Je compterai toutes les secondes qui me mènent à toi. Le soleil va chasser l'ombre, je m'en viens, attends-moi. J'ai tout laissé pour de bon, je n'ai plus peur, c'est comme ça. Attends-moi, attends encore, j'ai besoin de toi, de toi. J'aurais dû faire attention de ne pas tomber, de ne pas tomber. J'aurais appris ma leçon de ne pas douter, ne jamais douter. J'aurais pu tout essayer pour te garder, te regarder. Je ferais tout décoller pour te rattraper, te rattraper.
Ensemble, on fera tout l'amour.
C'était Laurence Nerbonne qui nous chantait « La nuit est à nous ». Et la nuit est à nous, oui, puisqu'on est au cinéma avec Louise-Véronique Sicotte. Bonjour Louise-Véronique.
Bonjour Arlette.
Alors Louise-Véronique, on est dans le cinéma avec, je ne l'ai pas dit, hein, je ne l'ai pas annoncé en début, mais tu vas nous parler du festival du film Plein Écran.
Oui, oui, parce que bon, bien sûr, la réalité fait que on ne peut pas aller dans nos salles de cinéma pour l'instant, mais il y a quand même de l'espoir. Et il y a un festival qui s'en vient et on pourra se rassasier de courts-métrages.
Oui, ça va être bien. Du 12 au 23 janvier, c'est ça?
C'est bien ça, oui. C'est le festival Plein Écran qui est à sa 6e édition. C'est toujours un festival qui est virtuel.
Oui.
Et c'est un festival de courts-métrages. Et donc dans ce festival, il y aura aussi une compétition des meilleurs films québécois.
Ça, c'est bien.
Alors, c'est vraiment formidable parce qu'imagine, Arlette, c'est gratuit.
Ça, c'est un mot que j'aime.
Oui, c'est gratuit, mais attention, il y a quand même une procédure parce que tous les films ne sont pas disponibles en même temps. Ils sont quatre films à la fois par jour.
D'accord.
Alors, si on veut voir tous les films durant le festival, ben, il faut aller soit sur la page Facebook, soit sur Instagram, soit sur la plateforme de leur site Internet, oui. Plein Écran. Et là, il y a quatre films qui sont présentés pendant 24 heures et on peut les visionner gratuitement.
Ça, c'est génial.
Oui. Et moi, d'ailleurs, si on va sur le site, là, il y a des extraits de chacun des films. Donc, ça peut déjà nous donner une bonne idée de la qualité de ces films. Et moi, j'ai très hâte de voir trois en particulier. Ben tous, là, mais trois en particulier. parce qu'il y en a deux qui sont en nomination dans la course aux Oscars pour le meilleur court-métrage.
D'accord.
Hein? Et ce sont des réalisatrices, Arlette.
Ah, bravo, les filles!
Ah, wow. Alors, il y a le film Frima de Marianne Farley.
Ah oui?
Oui. Et qui met en vedette Karine Gontier-Heidemann dans le rôle d'une femme qui doit se faire avorter. Et en fait, c'est un film de fiction qui se situe dans un avenir, mais qui pourrait être rapproché, là, où l'avortement devient recriminalisé, disons.
Oui, enfin, ça veut dire que le droit des femmes, il est parti aux oubliettes, quoi.
C'est
ça,
oui,
hein, là, quelque part.
Ce qui fait qu'elle doit se
repartir de nouveau, je veux
mobile
dire.
Mobile d'avortement, mais illégal.
Oui.
Alors, ça semble fort intéressant et, bon, troublant même. Et l'autre film que j'ai aussi bien hâte de voir, parce qu'il est aussi en nomination dans la course aux Oscars, c'est Les Grandes Claques d'Annie Saint-Pierre.
Oui.
Avec Steve Laplante. Donc, un rapport entre le père et ses enfants le soir de Noël. Alors, ça semble fort, fort intéressant également. Et puis, j'aimerais mentionner que le film d'ouverture, ce sera aussi un film réalisé par une réalisatrice, Alexa Jeanne Dubé.
Ben oui, c'est avec Pierre Curzi et Marie Tifot.
Oui, oui, oh. C'est ça, qui sont à la fois à l'écran et couple dans la vie. Et ça semble aussi fort profond parce que c'est vraiment sur le thème de la mort, du deuil, de la perte. Et il y a un raton laveur qui est l'animal qui va créer cette grande réflexion au sein du couple.
Ah, d'accord.
Mm-hmm. Alors, en plus, c'est pas seulement des projections, mais il y a aussi des événements. Il y a des projections qui sont commentées.
D'accord.
Et puis, donc, ça semble vraiment là, c'est très, très dynamique. Et il y a la porte-parole qui est Juliane Côté, qui va aussi échanger en direct sur Instagram le 15 janvier. Alors, c'est vraiment, là, j'ai très hâte de voir.
Il y a plein de films super intéressants quand j'ai vu la liste. Et puis d'autres,
oui, hein?
D'autres qui m'ont donné à sourire, ne serait-ce que par le titre et par l'histoire des fois.
Oui, oui.
Alors, je vais nommer Au plaisir les ordures.
Oui,
de Romain Dumont, parce que c'est trois éboueurs qui sont invités à souper chez le Premier ministre du Canada. J'ai l'impression de retourner à l'époque en France où un certain ministre disait « Venez manger, je vais manger chez vous le dimanche ». Là, c'est l'inverse. Il invite trois éboueurs à souper, donc ça a l'air d'être très, très drôle.
Oui.
Il y avait aussi, qu'est-ce que j'avais vu ? J'ai vu « Love-moi ». Avec l'histoire de notre jeunesse actuelle qui recherche l'amour à travers les réseaux sociaux.
Mm-hmm.
Parce que c'est aussi actuel, c'est aussi maintenant comment on le fait, donc intéressant aussi à savoir. Et puis le film de celui aussi, Il n'y a pas d'heure pour les femmes, dans un salon de coiffure politique à Tunis.
Oui. Donc voilà. Ce sont des documentaires et des
films. Enfin, il y en a tout plein d'autres. Hein. Je note ceci parce qu'ils m'ont interpellé aussi. M'ont fait les deux premiers m'ont donné à sourire. Je me suis dit, tiens, ça va...
Oui, hein.
Oui, aussi.
Non, vraiment, là, c'est... je pense qu'on peut être rassasié, en tout cas, durant cette période-là. Puis c'est aussi de découvrir des réalisateurs et des réalisatrices hein, qui émergent, mais même qui sont aussi très... qui ont beaucoup d'expérience aussi. Alors, c'est de tout, hein?
Ben, qu'on aura vu, et puis que, pour certains, tu sais, qu'on a vu dans d'autres choses, puis on les revoit, ou bien on les découvre, comme tu dis, oui, c'est bien de faire aussi des découvertes.
Oui, vraiment, je pense qu'il faut encourager aussi le cinéma d'ici, et les jeunes créateurs et créatrices.
Ben, c'est aussi j'ai vu aussi que c'était un court-métrage qui revenait sur Instagram parce qu'il ne l'était plus à un moment donné.
Lequel ?
Il mettait que les courts-métrages étaient de retour sur Instagram. Instagram n'étant pas finalement le lien obligatoire de tous les courts-métrages. Donc, il y a ça sera disponible aussi sur leur page Instagram, écran.
Oui, donc trois façons de voir les films.
Ça, c'est bien.
Oui. Oui, alors on n'a pas de raison de ne pas aller les voir. En plus, on n'a pas à se déplacer.
Alors là, j'étais en train de regarder justement là-dessus un film d'animation que je vais vraiment avoir envie de voir. C'est Au placard de Vivien Forçan qui est une réflexion choc sur la montée de la droite et de l'homophobie en France.
Oui, ça te touche particulièrement.
Oui, ça me touche particulièrement, oui.
Mm-hmm.
Donc, j'aimerais regarder ça aussi.
Oui. Voilà. Non, vraiment, là, c'est... une belle occasion pour nous, en plein hiver, là, de voir ces films. En plus, c'est gratuit. Hein. Alors, c'est tellement formidable, cette initiative du festival.
Voilà. Alors, je voulais juste nommer, avant de terminer, le soir de semaine aussi... c'est des films réalisés par des cinéastes autochtones.
Mm-hmm, oui.
Voilà.
Oui, donc on peut vraiment découvrir films, aussi la cinématographie autochtone, leur point de vue, leur problématique. Ça nous ouvre sur d'autres réalités.
D'accord. Et là, un que tu nous as pas nommé, mais qui a été préparé aussi, mais que tu as dû voir, tu as parlé des grandes claques. Et il y a Cat Calls, c'est ça ?
Pardon ?
Ils mettent l'occasion de voir Cat Calls, une critique très comique, image par image, où les femmes et les hommes deviennent chats et chiens.
Oui.
C'est ce qu'on a été toute notre vie... sans l'être physiquement.
Oui, on est un ou on est l'autre. Hein.
Ah ben, c'est plutôt dans le sens quand on dit sont comme chien et chat, c'est dans la dispute, dans le fait de pas se comprendre ou de pas avoir la même façon de voir les choses. Donc ça peut être très drôle aussi. Voilà.
Oui. Il y a des chats et des chiens qui s'entendent aussi, hein, Arlette.
Oui, c'est vrai. Je te le concède. Les vrais animaux. Chez les humains, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
La dernière chose, avant qu'on termine, il y a une carte blanche au cinéma de Bruxelles. Wallonie-Bruxelles, j'ai vu ça.
Oui, aussi. Je pense que c'est ça. Il y a plusieurs possibilités de voir des films du Québec et d'ailleurs. Et moi, ce que je suggère, c'est d'aller directement sur le site web.
D'accord.
Et là.
Alors, tu peux nous répéter où on peut s'inscrire ?
Alors, c'est du 12 au 23 janvier. C'est le festival Plein Écran.
Oui.
Et elle est sur le site web, la plateforme Plein Écran ou la page Facebook de Plein Écran ou sur Instagram. Et à partir du 12, on peut voir 4 films par jour.
Merveille. Alors, Louise Véronique, on va partir en musique. Et après, quand on revient, tu vas nous parler de la sortie prochaine d'un film. On ne sait pas quand, avec ce qui se passe. Mais on espère. Mais en tout cas, le film est fait. Donc, on peut quand même se permettre d'en parler pour nous mettre l'eau à la bouche avant. D'accord ?
Oui, d'accord.
Alors, on va entendre Chose Sauvage qui nous chante Apophis. Et on te retrouve tout de suite après.
Parfait.
Voici de retour avec Louise Véronique Sicotte. Louise Véronique, quel est le film dont tu veux nous parler?
Je voudrais vous mettre l'eau à la bouche de ce film de Pedro Almodovar,
yeah,
le réalisateur espagnol, qui nous a habitués à des personnages de femmes fortes, des personnages magnifiques, et
oui,
il ne fait pas exception dans ce film qui s'appelle Mère parallèle. On ne sait pas si le film va sortir le 28 janvier. C'est prévu le 28, mais bon,
ah,
on va attendre les directives, n'est-ce pas?
Ben, il va peut-être paraître peut-être pas au Québec parce que pour l'instant c'est toujours fermé, mais peut-être en France, peut-être en Europe, il va pouvoir sortir.
Oui, mais en fait, je parle de la sortie au Québec.
La sortie ici au Québec devait être le 28.
Oui, c'est ça, mais ça sera peut-être reporté, mais de toute façon, c'est sûr qu'il va certainement sortir là. Hein.
Oui.
Alors, mères parallèles, ce sont des mères qui sont très différentes l'une de l'autre. Et qui accouchent, par contre, en même temps, c'est-à-dire dans le même hôpital, et qui se rencontrent à ce moment-là, au cours de leur accouchement.
D'accord.
Il y a Janice, c'est Penélope Cruz.
Ah, ben oui, bien sûr.
Cruz, son réalisateur, c'est elle, sa muse, hein. Ouais. Et elle a tourné beaucoup avec lui.
Oui.
Et c'est un personnage absolument rempli de profondeur, de doute, absolument émouvant. Et on retrouve aussi une jeune comédienne qui s'appelle Milena Smith dans le rôle d'une adolescente qui, elle aussi, accouche. Et les deux vont voir leur destin, on pourrait dire, basculer par le fait que cette rencontre inopinée de leur accouchement simultané, on pourrait dire, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Bon, je ne vais pas vous en dire trop, là.
Mais connaissant Almodovar, c'est toujours très complexe.
C'est très complexe.
Ces histoires, hein, il faut le dire quand même.
Oui, oui. Et ce n'est pas une comédie, là. Non, non. On est dans un drame profond.
D'accord.
De femmes qui vivent leur maternité, qui vivent aussi des circonstances de femmes monoparentales.
Ah, d'accord. Oui, aussi, bien sûr.
Aussi. Et qui vivent une perte également. Alors, il y a un déchirement, il y a le doute face à une situation à laquelle elles ne sont pas préparées. Et aussi les liens entre les deux qui vont se créer. Mais au-delà de ça, au-delà de cette relation très personnelle, il y a aussi, on aborde la situation des personnes qui ont été... sous le régime franco, là, qui ont été exécutés. Et
exécutés.
Donc, on a retrouvé les corps. Donc, il y a cette recherche-là également, parallèlement.
D'accord.
Alors, il y a un aspect quand même historique dans ce film.
Oui.
Cette quête de retrouver les disparus. Et ça ne fait pas... ce n'est pas le sujet principal du film, mais c'est abordé quand même par le biais, disons. C'est quand même un film.
À travers l'histoire de ces deux femmes,
oui.
On passe quand même à travers cette histoire-là, quoi, l'histoire de l'Espagne.
Oui, oui, ça, c'est le sujet principal du film, cette relation.
Ah, ben, c'est tout ce qu'il a dans la tête, Almodovar, depuis longtemps.
Pardon?
Je dis, c'est ce qui est dans la tête de monsieur Almodovar depuis longtemps.
Oui.
Il y a toujours des liens là-dessus, une histoire pas finie, quoi.
Oui, oui. Mais, oui, Penélope Cruz, elle a remporté la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise pour ce rôle.
D'accord.
Oui, oui. Alors, c'est à voir. Elle est extrêmement touchante et...
Tu l'as vu, toi, le film?
Oui, bien sûr.
Alors, comment tu l'as trouvé? Parce qu'il nous reste 2 minutes, je voulais avoir ton avis dessus.
Ben, moi, j'ai vu le film avec... avec beaucoup d'émotion quand même, parce que, bon, c'est sûr qu'il y a des femmes qui ont vécu la maternité, d'autres non, mais quand même, c'est cette histoire-là qui est tout à fait touchante, parce que elle est prise dans un dilemme, cette femme. Et je ne vais pas vous révéler...
Non, non, ne nous dis rien, je voulais juste savoir, toi, si dans quel bouleversement ça t'avait apporté, voilà.
Mais parce qu'on se met à sa place, hein.
Oui.
Et puis, c'est qu'est-ce qu'on ferait à sa place?
Est-ce que pour toi, dans la minute qui nous reste, puisqu'on n'a plus le temps d'en parler plus, c'est encore un excellent film d'Almodovar?
Oui.
Ah
oui,
bah
oui.
Tu vois, là, ça n'a pas été... Hein, on n'a pas été le chercher, là, ton oui. Il était franc et direct.
Je ne vais pas vous dire l'intrigue, là.
Non, ne nous dis rien de plus.
C'est un film où, là, il y a une mise en scène, il y a l'interprétation. Et d'ailleurs, ce que je lisais à ce sujet, c'est que Penélope Cruz, durant ce film, durant le tournage, elle a été extrêmement émotive. Et elle avait une poupée là qui servait de bébé pour elle, et puis c'était très difficile pour elle de la quitter. Enfin, elle était très, très, très émotive, et donc, on a dû vraiment concentrer son énergie sur...
Elle l'a vraiment vécu à fond.
Oui, elle l'a vécu à fond.
Mais écoute...
Alors, c'est, elle est très investie dans son rôle. Et aussi la découverte de la jeune Mélina Smith aussi, qui vraiment...
On regardera ça très bientôt si ça arrive à sortir. Donc, ça s'appelle Mère parallèle.
Oui.
C'est normalement sorti le 28 janvier, en espérant que nos cinémas seront ouverts et nos théâtres aussi.
Oui.
Donc, merci beaucoup, Louise Véronique.
Et d'avoir là, été allons avec voir nous. Les films au Festival Plein Écran.
Voilà. Bien joué. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.
Au plaisir. À bientôt, au revoir.
Alors, on part en musique avec Chloé Sainte-Marie qui nous chante Brûlot. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission. Alors n'oubliez pas, comme nous le disait Louise Véronique Sicotte, que l'on remercie beaucoup. Festival du film Plein Écran, ça commence dès la semaine prochaine. Donc profitez-en, c'est gratuit, vous allez voir plein de courts-métrages absolument formidables. Donc profitez-en pour en voir un maximum. N'oubliez pas aussi dans votre panel d'achat Sonia Johnson qui, pour son album Air Givré. C'est vraiment à écouter, profitez-en beaucoup. Est-ce que je remercie, oui ou non, Nicolas Wartman pour la technique? Oui, et les chansons, merci mon petit Nico. Et puis à vous, ben, je vous dis à demain pour finir la semaine ensemble. Merci d'avoir été là. Au revoir, bonne soirée.